Serge Chavard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Serge, qu'est-ce que ça te fait de voir tous ces gens-là, des anciens coéquipiers, tous ces gens-là réunis autour de ton premier tournoi Serge Chavard à invitation et surtout avec une nouvelle cause? Donc, tu reprends le flambeau en quelque sorte.
Ben, en fait, je reprends le flambeau, c'est une manière de parler parce que ça fait quand même 9 ans que je suis impliqué avec la Corporation études sports de l'Université de Sherbrooke. Qu'on a donné.
Tu l'as jamais lâché, le flambeau, dans
le
fond.
On l'a jamais lâché, puis on est à 200 000 $. On donne 200 000 $ par année en bourse d'études, puis on peut pas aller plus que ça. Et il faut doubler le montant qu'on donne aux étudiants athlètes. On a à peu près 400 à l'Université de Sherbrooke. Et on a décidé, après la discussion avec le recteur, M. Cossette, qui va être en onde avec toi tout à l'heure, que pour doubler ça, faire un fonds de 5 millions de dollars. Et ça fait quand même un an et demi là, qu'on est là-dessus, qu'on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, en conférence de presse, on a annoncé le fonds Serge Chavard, qui est un fonds dédié à l'intérieur de la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Et au moment où on se parle, on a déjà 1 million de ramassés, plus les résultats de la journée d'aujourd'hui là, qu'on va connaître un petit peu plus tard, là. Alors, on sera plus près de 1,2, 1,5, 1,2 million ce soir. Je suis excessivement heureux de ça. Moi, personnellement, j'ai évolué, j'ai toujours prôné les études. J'ai été le gars dans les années 70 qui a fondé la ligne collégiale 3A. Alors, mon implication vers l'éducation, et je pense que dans la vie, je ne veux pas parler comme un politicien, mais je pense qu'on a la santé, l'éducation puis la pauvreté. Je pense que c'est trois choses majeures qu'on doit travailler. Puis lorsqu'on travaille dans l'éducation, bon, on aide à améliorer les deux autres.
Tu me permets, Serge, d'où vient cette conscience sociale-là que tu as toujours eue? Moi, évidemment, je suis né en 66, fait que c'est comme garçon que j'ai vu tes éditions du Canadien de Montréal remporter des coupes cette année, de vous idolâtrer, comme beaucoup des gens qui sont à l'écoute en ce moment. Mais c'est-tu venu dans ta famille? C'est-tu venu au contact?
Mon père était... c'est un beurrier. Je viens de l'Abitibi, de l'Andrienne, un village d'Andrienne. Mon père était mêlé en politique beaucoup. Mon père s'est occupé beaucoup de causes. Je dirais que ça vient beaucoup du côté familial. Puis, naturellement, quand tu arrives avec le club de hockey canadien, puis la première année, tu gagnes la Coupe Stanley, puis la deuxième année, tu gagnes la Coupe Stanley, tu es aux côtés de Jean Béliveau, bien, t'es en demande. Puis on te demande est-ce que tu voudrais être président d'honneur de TIC. Puis moi, je suis un gars qui a eu beaucoup de misère à dire non. Voilà. Puis j'ai toujours aimé ça. Tu sais, quand tu es assis, tu arrives dans le vestiaire du Canadien, puis tu es assis aux côtés de Jean Béliveau, puis Jean Béliveau vous dit, bien, écoutez les jeunes, là, quand vous signez un autographe, là, vous n'êtes pas capable de le signer pour que le monde soit capable de lire votre signature. Signez-le pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont écouté parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui va être capable de comprendre leur signature. Et si parfois ils mettent leur numéro, il va falloir que tu le voir dans le programme qui porte le numéro 89. Là. Alors, c'est très différent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont très bons aussi. Ça, au hockey, c'est plus rapide qu'avant. Mais je pense que notre implication sociale était un peu différente d'aujourd'hui. On était tous, de notre époque, on était tous du monde qui devait travailler pour survivre l'été parce que nos salaires n'étaient pas assez élevés.
On ne sentait pas un aussi grand écart peut-être entre le consommateur, le client au Centre Bell ou au Forum dans le temps.
Bien, ma première année canadienne, en 67-68, je gagnais 10 500 $. Fait que je ne gagnais pas beaucoup plus cher que l'électricien ou le plombier. Là. La saison était moins longue qu'aujourd'hui. Les étés étaient beaucoup plus longs. Mais on devait travailler. Il fallait se trouver quelque chose. Puis il fallait préparer notre après-carrière. Mm-hmm. Mais moi, je suis content de ça. Je suis content de l'implication que j'ai eue. Je pense pas qu'il y ait un hôpital à Montréal que j'ai pas été impliqué à un moment donné dans une levée de fonds. C'est moi qui ai emmené l'équipe la première fois à l'hôpital Sainte-Justine. C'est moi qui ai parti le club de balle à cette époque-là. Puis
mais la première fois que tu as emmené les gars à Sainte-Justine, tu te crois que tu avais planifié, que tu avais vu ailleurs, tu as dit, les boys, il faut faire quelque chose. Juste à titre anecdotique ou une autre, là, mais voir comment ça s'organisait dans le temps.
Il y avait un ami, Dr. Demers, il est arrivé là la première journée, puis il m'a accaparé, puis il dit, viens ici, je veux te montrer quelque chose. Puis il a commencé à me faire le tour de l'hôpital, puis montrer les jeunes, puis écoute. quand tu vois les jeunes pas de cheveux sur la tête, là, puis t'es voix avec
des gars infusés, là, avec les tubes.
C'est un gars qui a un cancer. Ben, tu sais, tu viens les larmes aux yeux. Y a-tu de plus belle cause que ça? Puis là, le docteur Demers m'a impliqué tout de suite. Il m'a emmené avec lui. J'ai été le premier porte-parole de l'hôpital Sainte-Justine avec Dominique Michel. Mon application a toujours été là. Pour aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai 73 ans, puis je pars le fond, puis je m'implique encore pour 5-10 ans, puis ça me donne pas grand-chose quand je vais être mort, mais il me semble que c'est quelque chose. Je pense que c'est important de laisser quelque chose, de s'impliquer avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, puis essayer de faire un monde meilleur.
Ouais, c'est tout à fait admirable. Bravo, Serge, pour l'ensemble de l'œuvre. Et pas depuis aujourd'hui, mais depuis le tout début. C'est même touchant d'entendre les passages quand on fait juste visualiser tes premières visites à Sainte-Justine. Ça fait en sorte que je trouve que c'est un message d'espoir également. Tu viens de le dire, tu as 73 ans. On parlait en dehors des zones aujourd'hui du fait que maintenant, 73 ans, c'est pas si vieux que ça. Ah,
je trouvais ça vieux avant.
Ouais.
Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça très vieux, mais aujourd'hui, je trouve ça très jeune.
Mais de t'embarquer dans un mandat pour 5 ans, peut-être 10 ans, ça, je trouve que c'est un message d'espoir que tu envoies aussi aux gens de ta génération actuelle. Hein?
Ouais, si on n'a pas le 5 millions dans 5 ans, on va continuer une sixième année. je pense qu'on va y arriver dans 5 ans, puis on prendra la décision à ce moment-là si on veut l'emmener plus haut.
Maintenant, tu me permets de te parler un petit peu d'actualité, de parler de hockey. As-tu regardé du sport? As-tu joué au golf pas mal cet été?
Je joue plus souvent quand je suis en Caroline du Sud.
Pendant l'hiver?
Qu'ici.
Ouais.
Je suis en Caroline du Sud, surtout le printemps, automne. L'hiver, mm-hmm. C'est un peu frais. Je passe l'hiver et l'été au Québec. Okay.
Quand tu accueilles un jeune comme Jonathan Drouin, à qui on va parler tout à l'heure à l'émission, on voit en lui, quand on a fait son acquisition, on voyait tous en lui, le retour d'une vedette francophone à Montréal. Quand tu l'invites à un tournoi comme celui-là, avec des Bob Gainey, les gars du Big Three, puis des légendes, là, Yvan Cournoyer, toi-même, est-ce que tu espères qu'au... Puis je sais que c'est peut-être de la magie de penser de même comme amateur, là, mais est-ce qu'il y a quoi qui se transmet dans la passion nécessaire pour assumer un rôle comme celui-là?
Bien, lui, moi, je l'ai rencontré... c'est moi qui l'ai rencontré avec Maître Daniel Johnson, parce que j'étais sur le conseil au CHUM. Avec puis l'avocat, le président, l'avocat Tremblay. Et je l'ai rencontré, puis je lui ai dit l'importance. Je lui ai dit qu'il va être du jour au lendemain une grande vedette au Québec. Là, c'est pas comme Tampa Bay puis Halifax. Là. Du jour au lendemain, tu vas devenir une grande vedette parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones à Montréal. Et tu dois être un de ceux qui va porter le flambeau. Et là, je l'ai incité. Je lui ai recommandé fortement de s'impliquer parce que lorsqu'on l'a rencontré, on voulait lui demander qu'il se compromette pour 500 000 au CHUM sur plusieurs années. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'étais très heureux de la rencontre qu'on a eue. Puis aujourd'hui, ben, on s'attend, les amateurs s'attendent plus de Jonathan Drouin que ce qu'ils ont vu à date. Ils vont en avoir plus parce que c'est un gars, ce talent-là ne peut pas dormir infiniment. Puis c'est avec un gars aussi talentueux que ça, puis on voit que le Canadien finit dernier dans le jeu de puissance dans la Ligue nationale, puis on perd les séries éliminatoires par un point, ça n'a aucun sens. Là. Avec un gars qui est potentiel
de quelque chose, là.
On est capable de finir mieux que ça, là. On aurait probablement fait les séries éliminatoires. Alors je m'attends à à l'âge qui est là, 23-24 ans, là, je ne sais pas si c'est 23 ou 24.
Il vient d'avoir 24 au mois de mars. Parce que tu sais, la fameuse pression, pour en avoir parlé, on va diffuser une entrevue un petit peu plus tard, mais j'ai réalisé une entrevue avec Jonathan un peu plus tôt, puis il m'avait dit il y a 2 ans, en arrivant, je carbure à la pression, puis je lui demande, leur dirais-tu aujourd'hui, c'est encore le cas, parce que quand on a vu une fin de saison, il y a moins produit l'an passé, ou des fois on voit que les gars peut-être deviennent un peu... tu le vois par les réponses, là, après les matchs, tu te dis...
Ben, la pression, écoute, nous autres... Quand on arrivait à Philadelphie, là, dans le temps des années 70, là, il y en avait de la pression. Là.
Puis, la pression de survivre.
Quand on est arrivé au sixième, la pression, ça, tu y fais face quand elle arrive. Puis il y en a qui vivent bien avec la pression. Puis la pression, dans la plupart des cas, te rend meilleur. Soit que tu deviens un meilleur joueur ou soit que tu lâches. Tu lâches sur la pression puis tu ne veux pas faire face à cette pression-là. Mais écoute, on a eu de la pression tout le temps. Le Canadien, avec les Nordiques, les séries que les Nordiques de Québec, ça nous a rendus meilleurs. En 93, on perd les 2 premiers matchs à Québec, puis on gagne les 4 autres. Tu sais, Québec, moi, je l'ai dit souvent, Québec nous a rendus meilleurs.
Ben, je crois à ça, moi.
Il nous a rendus meilleurs. Il m'a rendu, moi, meilleur comme gérant. Il m'a rendu meilleur. J'ai fait un clean-up dans tout ce qu'il y avait de francophone au Québec au repêchage. T'sais, alors que Québec n'a pas suivi ce que j'ai suivi. Ben, puis, alors, on a gagné la Coupe Stanley en 86. J'avais 9 joueurs de mon repêchage de 83-84, incluant les agents libres qu'on a signés. Alors, moi, je te dis, la pression, ça te rend meilleur. Et qui n'a pas de pression? Toi, à la radio, là, un matin, si tel poste, un poste compétiteur, met des meilleures cotes que toi, vas-tu en avoir de la pression?
Bien, c'est sûr. Puis même, avant que ça se manifeste.
Puis là, tu t'en gardes ta pression.
Oui, oui, oui. Ouais. Ben moi, j'aime ça, quelque part. Ben,
c'est sûr que ça nous rend meilleurs.
Ben oui, certainement. Quand tu regardes ça, parce que, tu sais, on est conscient, tout le monde, que c'est différentes époques, l'époque où tu as joué, où tu as dirigé, l'époque actuelle. Puis je dis pas ça là pour banaliser ou quoi que ce soit, tu vas voir où je vais en venir, mais quand tu regardes la réalité d'aujourd'hui, c'est une ligue à 31 équipes. C'est pas la Ligue canadienne de football à 9 équipes, tu sais, 31 équipes. Je veux dire, as-tu de l'indulgence ou de l'empathie pour les gars qui dirigent aujourd'hui une équipe au Canada qui a pas gagné une coupe depuis 93, aucune équipe canadienne, dans un pays où les gros agents libres ne viennent plus, pas juste Montréal, là. Tu sais, penses-tu que ça serait difficile pour le meilleur GM au monde de diriger puis de ramener la coupe à Montréal? Comment tu vois ça? Ou, au contraire, tu trouves qu'on se complaît d'une certaine façon?
En tout cas, faut travailler pour... moi, j'ai pas vécu avec un cap salarial, mais j'ai vécu avec des joueurs qui voulaient pas venir à Montréal. J'ai été rencontré, puis j'aurais vanté la ville de Montréal, puis des gars comme Brian Bellows, on l'a-t-il le rencontré à l'aéroport à New York, il ne voulait pas venir à Montréal. Puis parle-y aujourd'hui, il venait à Montréal, puis il a gagné une Coupe Stanley. Des gars comme Bobby Smith, les gars étaient contents de venir à Montréal. Tu sais, puis avant d'arriver à Montréal, ils savaient qu'il y aurait plus de pression qu'au Minnesota, là. Mais il a gagné, Bobby Smith. En 86, Bobby Smith, je te dis pas que c'est lui qui nous a fait gagner la Coupe Stanley, mais il nous a donné une dimension qu'on n'avait pas à ce moment-là.
Ah, certainement, ouais. Écoute.
Alors, puis en 93, c'est la même chose avec un gars comme Danfoss, c'est arrivé, puis il nous a donné une autre dimension qu'on n'avait pas avant cette transaction-là. Alors, les gars, il n'y a pas de raison, aujourd'hui...
Mais qu'on se remette à gagner, tu penses que les gars vont venir plus facilement?
Oui, mais aujourd'hui, l'athlète, on parle juste de l'argent aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand je donnais un contrat de 300-400 000, vous étiez tous là, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là gagne 400 000. Aujourd'hui, le joueur ordinaire gagne 3 millions, 4 millions. On parle juste du cap salarial, puis il n'y a pas personne qui s'étonne quand quelqu'un signe un contrat 8 millions ou 5 millions. On a un qui gagne 6 millions d'un mineur. Tu sais, c'est correct. Ça a changé. La discussion a changé.
Ouais, ouais.
Quand j'ai signé Patrick Roy, là, aux alentours de 3 millions canadiens de moyenne, là, il avait gagné. Quand j'ai fait ça, il avait gagné tous les trophées qu'il pouvait gagner dans la Ligue nationale. Et là, je me suis fait rabroué là, par... pas beaucoup ici, par les médias, mais...
Un gars ailleurs comme, dans la Ligue, non?
Un gars comme Harry Sinden, il est en négociation avec Raymond Bock, là, il m'a dit, je suis fini. Ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de faire, je suis fini. Tu sais, on vit un temps différent, là.
Vraiment?
Aujourd'hui, le gars, c'est toutes des fiches, puis le gars, il a marqué 20 buts, il a 50 points, il a gagné telle affaire. Oups, il est dans cette catégorie-là. Faut-il le payer comme ça?
Penses-tu que... Tu sais, c'est drôle parce que toi, tu t'es fait rabrouer dans le temps pour avoir donné peut-être trop d'argent à un gars comme Patrick Roy. L'histoire a prouvé, je pense, que c'était pas un mauvais.
Mais il avait gagné quand j'ai dit.
Il avait gagné, en plus. Oui. Fait que tu penses-tu qu'un gars comme Marc Bergevin, qui fait une offre, entre guillemets, hostile à une autre équipe, il s'est fait des ennemis en faisant ça ou pas vraiment, ou dans le contexte d'aujourd'hui?
Ben il y en a sûrement un, il y en a sûrement un qui n'est pas content.
En Caroline? Oui, il faut qu'il sorte pas mal de millions en dedans de 12-13 mois. Mais as-tu aimé ça, toi, ce geste-là, ou tu trouves que ça ne sert à rien?
Les joueurs avec compensation, là. En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça parce que les chances que le gars ne matche pas, là. Weber, c'était la même chose. Je me rappelle quand Philadelphie a fait un offre hostile à Weber, pensait que Nashville ne matchera pas. Oubliez ça, là.
Tu laisseras pas un gars de talent de même partir. En plus, un gars qui est repêché en deuxième ronde, by the way.
Mais c'est les
premiers, on t'aura pas fait ça.
Les propriétaires sont pas capables de se discipliner. Mais imagine-toi s'il n'y a pas de cap salarial. Dans le temps, là, quand les agents libres sont arrivés, sans cap salarial, ça serait-tu beau à Toronto? Ça serait-tu beau à Philadelphie, à New York? Même peut-être à Montréal. Toutes les équipes qui ont le moyen de le faire, là. Ben, les meilleurs joueurs s'en iraient toujours aux mêmes équipes. On le vit au baseball.
Ouais, ouais.
Il y a un cap salarial au baseball, mais c'est pas un cap salarial dur. On appelle c'est un soft cap salarial.
Ouais.
Tu peux signer, tu peux dépasser, tu payes simplement une taxe. Tu payes simplement une taxe de luxe. Alors qui est en tête? Sur le même club, c'est en tête. Sur les Dodgers, les Yankees, sur le même club qui sont en tête, Atlanta. Regarde ça depuis les 20 dernières années, puis ça va.
Serge Chavard qui est avec nous, vous reconnaissez sa voix est tellement reconnaissable. J'ai toujours dit à Serge qu'il aurait fait un bon animateur de radio. Là, mais ça, t'as l'air à l'aise.
J'ai fait ta
on
job
pourrait faire une saison.
J'ai fait ta job une fois dans les années 80, j'ai remplacé Pierre Trudel.
Avec mon ancien collègue Pierre Trudel que je salue.
J'ai remplacé une semaine. Puis j'ai laissé ça parce que je trouvais pas ça assez payant.
Ça n'a pas été un mauvais choix parce que ça te permet de donner de ta poche 400 000 à la fondation actuelle de l'Université de Sherbrooke. Bravo pour cette implication-là, Serge. Et une petite dernière, juste parce que je sais que tu étais intéressé au monde des affaires, tout ça. Le retour du baseball en garde partagée, as-tu une opinion là-dessus?
J'espère que ça va arriver. On n'aurait jamais dû perdre les Expos.
Jamais. Comme les Nordiques.
Comme les Nordiques n'auraient jamais dû perdre le club à Québec, mais ça s'est fait. Puis la garde partagée, moi, je pense que si ça arrive, la garde partagée, c'est une bonne nouvelle parce que la garde partagée ne durera pas indéfiniment.
Ça, ça va être le début de quelque chose de plus permanent.
Ça va être le début de quelque chose.
Serge, bravo encore une fois pour la première édition du Invitation Serge Chavard à Izmir. Bonne soirée avec tes convives et tes anciens coéquipiers. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Sais-tu comment j'ai de Coupe Stanley dans la salle ce soir?
T'as fait le total en t'en venant.
77.
Hein? 77 Coupe Stanley?
Dans la salle ce soir.
Qui en a le plus? C'est Yvan?
Yvan. Ben moi, j'ai le même nombre qu'Yvan, mais j'en ai comme joueur, j'en ai 8 et 2 comme gérant.
T'as triché, toi, t'as dirigé un club.
Yvan, il y en a 10.
Comme dire Almo, c'est des coupes en temps. Serge Chavard, merci infiniment. Merci pour ces belles minutes de radio et bonne soirée avec tes invités ce soir.
Merci.
Merci beaucoup.